Histoire de peinture. Aujourd'hui, Léonard de Vinci est un peintre chinois.
Alors, parmi les artistes qui sont les plus significatifs, on va dire, de façon neutre, à propos de cette histoire de la perspective, et en particulier de cette période de la fin du XVe siècle, où elle n'est plus fondamentalement d'actualité dans sa géométrie, eh bien, parmi les artistes les plus significatifs, on ne s'étonnera pas de trouver Léonard de Vinci. Léonard, qui est à Florence, actif à Florence, on va dire, entre 1469 et 1482, qui ensuite va à Milan entre 82 et 99, puis ensuite se déplace entre Florence, Milan, Rome, pour finir en France, à l'appel de François Ier en 1516, et mourir, comme on le sait, en Touraine. Bon, eh bien, Léonard, parfait élève des ateliers florentins, il est intéressant que sa première œuvre, connue de nous, soit un dessin, une vue de la haute vallée de l'Arno, et c'est le premier paysage de la peinture occidentale, au sens où la vue est prise depuis la nature. Le dessin de Léonard, c'est une feuille datée et signée, 1475, il me semble me rappeler, où le point de vue est depuis une hauteur, entre des rochers, il y a une rivière qui coule, à mi-distance, sur un éperon rocheux, il y a une sorte de place forte, comme on en voit en Italie. Bon, tout à fait, on a voulu y reconnaître un lieu de la haute vallée de Toscane. J'ai vécu 5 ans dans le Casentino, qui est justement la haute vallée de l'Arno. Rien ne ressemble à ça, à mon avis, dans la haute vallée de l'Arno. C'est une vue que Léonard a faite dans son atelier. C'est une idée de paysage. On est beaucoup plus qu'un paysage réel, comme il en fera par ailleurs. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, depuis ce point de vue élevé, cette ville, ce bourg fortifié à mi-distance, au loin la plaine, et là, négligemment jeté dans le paysage, de grilles perspectives. De grilles, mais non pas construites mathématiquement, mais juste le quadrillage de la perspective. C'est-à-dire que, très clairement, d'entrée de jeu, alors qu'il était un très bon élève d'atelier de Verrocchio, eh bien, Léonard, dans une œuvre intime, privée, qui ne quittera jamais son atelier, il indique un renversement de point de vue. C'est-à-dire que la perspective passe à l'arrière-plan, et au premier plan, ce qui l'intéresse, c'est le rocher et l'eau. L'eau et le rocher, le mouvement de la nature, la force de la nature, etc. Bien. Ensuite, bien sûr, Léonard doit répondre aux demandes et aux commandes. Et une de ses premières œuvres, c'est l'Annonciation, l'Annonciation tout en longueur, qui est horizontale aux offices aujourd'hui. Très beau tableau, je crois qu'on date de 1475-76, donc presque en même temps que ce dessin. Simplement, magnifique Annonciation, la Vierge à droite, à l'extérieur, avec un angle de bâtiment, un petit parapet, l'ange à gauche, et puis un paysage à arrière-plan avec au fond, tout au fond, une montagne, la Vierge, et un port, la Vierge, c'est-à-dire les symboles de la Vierge. Et simplement, quand Carlo Pedretti a fait le schéma de perspective apparemment très simple de cette annonciation, il a vu qu'il était faux. Il a l'air vrai, mais il est complètement faux. C'est-à-dire que le parapet qui sépare le lieu de la rencontre du paysage, eh bien en fait, si on fait le plan, il entre dans le mur. C'est totalement invraisemblable. C'est une apparence de réalité, mais de construction exacte, mais ça ne l'est pas. Ensuite, l'œuvre importante de Léonard, c'est entre autres, mais je vais la prendre dans la chronologie, c'est la fameuse Adoration des Mages inachevée quand il quitte Florence pour Milan. Cette Adoration des Mages, on a deux dessins, on a beaucoup de dessins préparatoires, mais deux en particulier qui nous intéressent, qui intéressent la question de la perspective. C'est une première esquisse complète, alors on a vraiment la Vierge, l'enfant, les mages, la grange, la bâtisse de la Vierge, une architecture en ruine également, et c'est d'une maladresse perspective, mais alors inconcevable pour quelqu'un du génie et de l'habileté de Léonard. C'est très surprenant, c'est un dessin très réussi pour les figures qui sont au premier plan, mais l'arrière-plan en perspective est inexistant, d'une médiocrité effarante. Oui, j'ai bien effarante pour un artiste comme Léonard, alors qu'il a déjà montré beaucoup plus de maîtrise ailleurs. Et puis la deuxième étude qui nous intéresse, c'est un dessin très célèbre qui est aux offices et qui représente uniquement la perspective, sans les figures. Et là, c'est un tour de force de perspective absolument extraordinaire, d'une perfection, sauf qu'elle est fausse dans le détail, mais la perfection de l'apparence est admirable, il y a tout le schéma, les lignes de fuite, les pavements, les piliers d'architecture sont bien posés, les escaliers en perspective sont parfaits, etc. Bien, donc on dit progrès qu'a fait Léonard entre les deux. On passe ensuite au tableau, enfin progrès entre guillemets, on passe au tableau inachevé, et là on constate que Léonard est profondément indifférent à la perspective. C'est-à-dire que le premier plan, c'est, je ne sais pas si vous avez le tableau dans l'œil, mais c'est ce groupe de figures extraordinaires, hein, d'une agitation, alors qu'il fait un tumulte épouvantable. C'est un tableau anti-albertien, justement. Là, l'histoire se fait dans le tumulte. Hein. Et parce que c'est vrai que l'épiphanie, hein, le fait que le Dieu incarné se révèle à l'ensemble du monde, parce que c'est ça le sens de l'épiphanie et des rois mages, c'est une grande nouvelle, mais c'est pas une petite nouvelle, et le tumulte est complet. Et puis à l'arrière-plan, mais c'est-à-dire en fait au-dessus, hein, dans la surface, vous avez une perspective, hein, avec des ruines très intéressantes au point de vue iconographique, une perspective réussie, mais sur laquelle Léonard n'insiste pas. Ce qui l'intéresse, dans la partie haute, c'est à droite, un combat de cavaliers, qui apparemment n'a rien à voir avec le thème. Mais ça intéresse, il met en équilibre le tumulte du premier plan, qui occupe toute la largeur du tableau, la perspective esquissée très réussie dans le quart supérieur gauche, on va dire, et puis dans le quart supérieur droit, eh bien, une bataille de chevaux. Bien, donc la perspective, elle se recule et elle devient secondaire. Ensuite, Léonard part à Milan, il fait un certain nombre de choses, beaucoup de choses même. Parmi ses œuvres, une œuvre là que tout le monde pense à dans l'œil, qui est la dernière scène, hein, à Sainte-Marie-des-Grâces, autour de 1495-98. Alors, on a énormément analysé cette dernière scène, c'est une œuvre admirable, hein, d'invention et de renouvellement. Il y a un point qui me paraît, pour moi, et à l'intérieur d'une histoire de la perspective très très intéressante, c'est le fait que, qui a été remarqué et très bien analysé, hein, je ne sais pas moi qui ai eu cette idée-là, mais enfin, s'il vaut la peine de le souligner, c'est que la perspective de l'architecture est parfaite, continue la salle réelle du réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces, on a l'impression que le réfectoire se continue, hein, dans la pièce où a lieu la dernière scène, la pièce de l'étage, comme il est dit, donc il est normal qu'elle soit en hauteur dans la salle, continuité parfaite entre salle réelle et salle peinte, avec un plafond à caissons parfait, peint, ce qu'on appelle les tapisseries sur les côtés qui rythment la profondeur, puis au fond, la pièce fermée par deux fenêtres et une porte, hein, qui permettent de cadrer le Christ en particulier, etc. Donc, une démonstration, une très belle utilisation, on va dire, de la perspective pour créer l'espace fictif de la Storia en continuité avec l'espace réel du spectateur. Simplement, ce qu'on a marqué depuis longtemps, c'est que la table des apôtres, hein, qui occupe tout le premier plan en largeur, est beaucoup trop grande, hein, par rapport à l'espace perspective supposé par Léonard. C'est-à-dire que là, Léonard a joué sur le cadrage. Hein, donc, on avait dit, par la perspective, il y a le point de fuite, le point de distance et le cadrage. Et le cadrage est un cadrage très serré sur les figures, mais qui fait en même temps que le plafond tel qu'il est peint s'arrête bien avant d'être au-dessus des figures. C'est-à-dire qu'il est découpé par le haut de l'image dans la profondeur de la pièce. C'est cadré, serré, aussi en hauteur. Et donc, en fait, les apôtres et leurs tables sont tout à fait en avant de la perspective, hein, qui est représentée. Ils ne sont pas dans la perspective. Ils sont, on a presque envie de dire, dans un entre-deux, hein, entre l'espace réel où nous sommes, nous, présents spectateurs de la dernière scène, où les religieux de Sainte-Marie-des-Grâces, et puis l'espace représenté à l'arrière-plan par la perspective. Mais eux, les apôtres et la table, ils sont entre les deux, ils surgissent absolument entre les deux. Très bel effet rhétorique et de présence, justement. Ça surgit en avant, il y a un effet de présence extraordinaire. Mais Léonard ne se contente pas, justement, de mettre à distance, hein, sa perspective pour faire surgir la figure. Encore plus, ils surgissent beaucoup plus que si le plafond avait été peint jusqu'au-dessus des figures, et les murs également latéralement jusqu'au bord des figures. Un autre point où Léonard utilise génialement la grille géométrie de la perspective, c'est que, si vous vous rappelez bien, la dernière scène est faite du Christ au centre, entouré de quatre groupes de trois apôtres. Ils sont 12, dont Judas. Ils sont tous du même côté de la table, hein, ce qui est non pas une nouveauté, mais enfin, c'est quand même, à Florence, ça aurait été très très nouveau, et ça l'a été d'ailleurs. Et il y en a 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc, une symétrie parfaite. Un au centre, plus 6 de chaque côté, très symétrique. Varié, bien sûr, les quatre groupes de trois ont des attitudes très très diversifiées. Mais là où j'étais très étonné de ce que j'ai vu, c'est quand, justement, j'ai constaté que la façon dont Léonard faisait jouer ces quatre groupes de trois apôtres par rapport aux scansions géométriques de la perspective qui étaient données, comme je disais, par le plafond, les tapisseries latérales et l'angle de la pièce au fond, les deux fenêtres et la porte. Si vous regardez attentivement, vous verrez que on a l'impression que c'est symétrique, puisque c'est symétrique et puis que la structure est symétrique. Eh bien, il n'y a jamais aucun des groupes qui correspondent à la disposition de l'autre. C'est-à-dire que si un groupe est devant une fenêtre et un pan de mur à gauche, eh bien, il sera devant le pan de mur et la fenêtre à droite. Si une tapisserie et un intervalle entre deux tapisseries correspondent à un groupe sur la gauche, ça va être inversé sur la droite. Et pas inversé, mécaniquement, mais ça va être joué systématiquement. Et là, on a vraiment l'impression, c'est d'une sorte, comme si la construction géométrique donnait une sorte de de grilles, je dirais, de portées hein, musicales, comme des lignes musicales, sur lesquelles les figures sont des notes qui jouent. Et que ce qui intéresse Léonard, c'est justement, dans la dernière scène, c'est le cadre géométrique donné par la perspective, entre guillemets, régulière, comme instrument à dénier, qu'il faut dénier, hein, par des figures qui se déplacent sans arrêt à l'intérieur de la grille. Et c'est ça le mouvement du monde. Et alors, effectivement, à ce moment-là, une fois qu'on a vu ça, enfin, une fois que j'ai vu ça, je veux dire, bon, la fresque, c'est encore plus animé, parce que j'ai vu à ce moment-là qu'effectivement, il y avait un mouvement qui partait du Christ avec ses deux mains, et qui était, et Gombrich l'avait noté aussi, il l'a noté avant moi, bien sûr, et qui à ce moment-là part vers les extrêmes de la table, en emportant les apôtres sur le mouvement, et puis on arrive aux derniers apôtres, et ça revient vers le centre, et que c'est ça qui compte dans la scène, c'est ça qui fait la magie, en fait, de l'image, c'est que la grille géométrique et la perspective sont là, mais pour mettre en valeur que tout lui échappe à la grille. Bon, et ça, je crois que là, on est au cœur hein, du travail de Léonard. Et j'ai la meilleure preuve, c'est qu'ensuite, Léonard ne fera plus jamais de perspective géométrique. La dernière scène est la dernière œuvre de Léonard où la perspective est utilisée. Ensuite, pensez au portrait, la bataille d'Angaris, qu'on peut en savoir, Léda, Sainte-Anne-la-Vierge et l'Enfant. Il n'y a plus de perspective géométrique. Il y a un groupe de figures hein, qui s'équilibre tout seul. Le Sainte-Anne-la-Vierge et l'Enfant, c'est admirable. C'est un groupe qui ne tient sur rien. Il tient sur ses trois pieds. Il y a le trépied, hein, deux pieds de la Vierge, un pied de Sainte-Anne, qui fait tenir tout le groupe hein, dans un état d'ailleurs d'équilibre vraiment très instable, mouvant dans un paysage préhistorique. Léonard renonce délibérément à la perspective géométrique après la dernière scène, mais j'ai résumé très brutalement hein, cette baisse de parcours dans la perspective chez Léonard. On constate que dès le début, la perspective ne l'intéressait pas. Hein. La perspective n'intéressait pas sa grille, il l'avait mise au fond du paysage. À s'y intéresser, c'est au premier plan, le rocher et l'eau, c'est-à-dire le stable et le mouvant. Et la rencontre des deux, et le fait que le stable même n'est en fait, le rocher, hein, n'est en fait lui-même tel qu'il est aujourd'hui que le résultat d'un mouvement infini, indéfini du monde. Et c'est ce mouvement qui intéresse Léonard. Et donc la grille de perspective, elle tente de saisir, c'est comme quelqu'un qui voudrait saisir de l'eau dans un filet de pêcheur. Ben, l'eau, elle s'en va du filet de pêcheur, parce qu'elle est mouvement. Et c'est ce qui intéresse Léonard, c'est ça. Et le mouvement, c'est ce qui intéresse toute la Renaissance aussi. Hein. C'est-à-dire Léonard est un grand pendant la Renaissance, parce que la Renaissance, ce qui intéresse, c'est le mouvement. Déjà, ça intéressait Alberti, hein, qui donne des pages très nombreuses sur le mouvement en peinture. Et puis, c'est au 16e, on dit que la grâce, c'est le mouvement, et qu'il faut savoir que le mouvement est l'essentiel de la peinture. Mais chez Léonard, c'est pas seulement l'essentiel de la peinture, c'est l'essentiel du monde. Le monde est mouvement, le monde n'est que mouvement, et les formes fixes ne sont que des conventions. Alors, les formes fixes, je pense à l'anatomie, par exemple, dessin anatomique de Léonard, elles sont fixes, elles sont vraies, mais elles sont pas visibles. Et Léonard le dit très bien, on ne voit pas dans la nature ce qu'il représente dans ses dessins. Hein, non seulement parce qu'il synthétise ce qu'il a vu, mais aussi parce que dans la nature, on ne voit pas les lignes de contour. On ne les voit pas. Et tous les peintres le disent. Hein, les grands peintres disent, on ne voit pas les lignes de contour dans la nature. Goya l'a dit, Delacroix l'a dit. Léonard est le premier à le dire. Alberti disait, il faut pas les voir en peinture. Il le disait déjà, Alberti. Mais Léonard va plus loin, il dit, on ne les voit pas dans la nature. Bon, même si elles sont vraies, on ne les voit pas. Et donc, pourquoi construire un monde à partir de géométrie et de lignes, alors que le monde n'est que fluidité et passage. Et donc, Léonard est un de ceux qui le plus profondément, mais là c'est une dimension philosophique hein, chez Léonard, montre que la perspective est effectivement un instrument, c'est un instrument qu'elle ne sera en aucun cas être une règle absolument coercitive, parce que les artistes en jouent, et quand même on peut très bien s'en passer, tout en faisant des tableaux, entre guillemets, en perspective. Mais alors Léonard a travaillé d'autres perspectives, la perspective géométrique, perspective aérienne, perspective des couleurs, perspective des ombres, perspective des pertes. Hein. Comment la perspective des pertes, de la perte de perception. C'est-à-dire qu'il y a de très beaux, très belles phrases, très beaux dessins, qui montrent comment au fur et à mesure qu'un objet s'éloigne, on le voit moins bien. Et donc c'est une perspective de la perte de vision en fonction de la distance. Bon. Et Léonard, il y a quatre perspectives chez Léonard, et chacune est une élaboration où la perspective des lignes, dans les quatre, il y a la perspective des lignes, mais ce n'est qu'une des perspectives parmi toutes les perspectives permettant de représenter l'aspect du monde, c'est-à-dire non pas un monde de forme fixe observé par l'observateur immobile et qui aura un œil unique, hein, mais un aspect, l'aspect d'un monde de forme mouvante, observé par plusieurs spectateurs éventuellement, comme dans la dernière scène, et ayant un regard mobile, parce que nous avons tous deux yeux qui n'arrêtent pas de bouger. Et donc, l'idée de la perspective comme contrainte, dès la fin du XVe siècle, elle n'est plus d'ordre de jour, et Léonard montre à quel point on peut, à l'intérieur même du système moyenne, hein, le dépasser sans plus faire appel à la géométrie. Mais à autre chose, cette autre chose, ben, ça va être essentiellement l'atmosphère et les ombres. Ce qui intéresse Léonard, ce sont les ombres. Et les ombres, on ne peut pas les saisir en perspective. C'est simple, parce qu'elles ont des bords indéfinis, dit Léonard. Celui qui fait une géométrie des ombres, c'est Durer, mais il n'y arrivera pas vraiment. Léonard essaye, et à un moment, il y renonce définitivement. Il n'y a pas de géométrie des ombres. J'osais le dire, d'ailleurs je vais oser le dire, j'ai pas osé l'écrire, hein, mais j'osais le dire. Moi je pense que Léonard de Vinci était en partie chinois. C'est-à-dire que son père était notaire à Vinci, enfin à Florence certainement, sa mère était paysanne toscane, mais quelque part il y a du sang chinois. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué que la Joconde a les yeux légèrement bridés. Hein, il y a quelque chose dans la Joconde, là. Il y a la patine, hein, qui a jauni tout ça, mais elle a les yeux quand même légèrement bridés dès l'origine. Non, mais sérieusement, il y a quelque chose de très étrange dans cette singularité de Léonard, à la fin du XVe siècle. Il y a une relation absolument aberrante avec, par ailleurs, la peinture, la pensée chinoise. C'est, la récurrence chez Léonard, de l'opposition entre l'eau et le rocher. L'eau et le rocher, qui est au cœur, hein, de la peinture chinoise. Et, mais un autre écho également singulier, c'est la conception même, dans le fond, du moi, hein, du sujet. Léonard, alors, vous savez que Léonard n'a vraiment rien écrit sur lui. Dans les milliers de pages de Léonard, il n'y a pas un mot sur lui-même. Mais justement, ce qu'on peut deviner entre les mots non dits, mais à travers les anecdotes, les fables, les devinettes, hein, tous ces textes singuliers, un peu à côté de la grande pensée de Léonard, c'est que le moi est un passage, est une porte. Hein. Et ça, c'est très chinois, de dire que le moi est une porte. Bien, chez Léonard, il y a aussi l'idée, dans le fond, que le sujet, le jeu, n'a pas à être présent dans l'œuvre. Hein. Tout peintre se peint, c'est un défaut, dit Léonard. Le peintre ne va pas laisser aucune trace de lui dans l'œuvre. Le peintre n'est que le passage, hein, que le lieu de passage d'une création divine. Bon, alors, il est absurde, hein, de dire que Léonard est chinois, même si Charles Sterling avait déjà évoqué cette relation à travers des gravures chinoises qui auraient été présentes en Europe à la fin du XVe siècle. Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'étrange écho, hein, entre cette singularité absolue de l'art occidental qu'est Léonard, mais qui est en même temps une sorte de modèle, de symbole de l'art occidental. Et si on va au fond, on finit par trouver quelque chose qui curieusement évoque la Chine.
Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation Carole Sondevoir, Claire Levasseur, Jean-Claude Loiseau.